Bonjour à tous. Je dois allumer la zapette, voilà, et le reste va s'afficher. J'étais en train de sourire là sur mon banc, parce que c'est formidable de pouvoir louer le Seigneur, n'est-ce pas? Puis de l'autre côté, je me dis, vous avez déjà entendu beaucoup de choses, et maintenant il y a un message qui est coincé entre tout ce que vous avez eu et le repas. Ça fait un sacré sandwich, hein. Deuxième thème pour cette conférence, j'avais dit que je n'étais pas très d'accord avec mes propres titres. Je ne suis pas bon du tout pour les titres, c'est vraiment un truc sur lequel je ne suis pas bon. Donc en fait, on va surtout parler du silence de l'écoute de Dieu ce matin. Et j'ai choisi ce verset comme punchline. La fin de toute chose est proche. Menez une vie équilibrée. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de l'équilibre de vos vies, mais je pense que c'est un point sur lequel on a toujours envie de travailler. Parce que je crois qu'à la fois dans notre vie personnelle et à la fois dans notre leadership, nous sommes menacés. Nous sommes menacés par une chose, conduire les affaires de Dieu d'une manière séculière. C'est-à-dire qu'en fait, ça devient notre job. Et qu'on n'arrive plus à être connecté au Seigneur et conduit par lui comme on le devrait. Et la deuxième chose qui m'inquiète beaucoup, c'est que je rencontre déjà des jeunes serviteurs de Dieu qui sont presque cramés. Ils sont dans le ministère depuis moins de 10 ans et ils sont déjà en zone rouge. Et j'en parlerai demain. Juste une petite statistique dont je reparlerai. On pense que 70% des serviteurs de Dieu ne lisent la Bible que pour préparer leur message. Et on s'interroge par ailleurs sur la sécularisation de l'Église. Allez. Pour ma part, je me pose depuis un certain temps une question. Si l'Église se sécularise, est-ce que ce ne serait pas par hasard? Parce que les serviteurs de Dieu se sont d'une certaine manière sécularisés dans l'exercice de leur leadership. Je me rends compte, en réfléchissant et en voyageant, que beaucoup d'églises sont confrontées à un leadership dysfonctionnel. Et c'est un frein au développement des églises et au développement d'une nouvelle génération. Voici ce qu'écrit Henri Nouwen. Lisez avec moi. Examinons un instant notre routine quotidienne. En général, nous sommes des gens très pris. Nous devons assister à quantité de réunions. Nous avons quantité de visites à faire, de services à assumer. Nos agendas sont surchargés et on vient de nous dire d'ajouter quelque chose à notre agenda. Rares sont les moments où nous n'avons rien à faire. Et nous vivons à un rythme tellement effréné que nous ne prenons même pas un instant de répit pour nous demander si l'une quelconque de nos pensées ou de nos paroles ou de nos actions mérite d'être réfléchie, prononcée ou entreprise. Nous nous contentons de faire bon ménage avec les multiples devoirs et responsabilités qui nous incombent et nous leur consacrons notre vie comme s'il s'agissait d'authentiques expressions de l'Évangile. Il faut inciter les gens à aller à l'église, intéresser les jeunes, trouver de l'argent, et surtout, il faut contenter tout le monde. Par ailleurs, il convient que nous soyons en bon terme avec les autorités civiles et les autorités religieuses. Nous souhaitons être aimés, ou du moins respectés, par la majorité des membres de nos communautés ou institutions dans lesquelles nous travaillons. Et enfin, nous avons besoin de rémunération suffisante et d'un temps de repos pour mener une vie équilibrée. Ainsi, nous avons fort à faire, comme tant d'autres personnes, et nos récompenses sont celles qui gratifient les gens très occupés. Il résulte de tout cela que nos vies d'hommes et de femmes qui avons accepté de servir dans l'Église tendent à être terriblement séculières. Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi les enfants de la lumière en arrivons-nous à pactiser si aisément avec les ténèbres? La réponse est très simple. Notre identité, l'image que nous avons de nous-mêmes est en jeu. La sécularité est une façon d'être dépendant des réponses de notre milieu. Ça pique, hein? Ça pique, hein? La question que pose Henri Nouwen ici, c'est: est-ce que nous sommes façonnés par notre ministère, par les attentes des autres, ou est-ce que nous sommes façonnés par l'Esprit de Christ? Moi-même, je suis un enfant spirituel de Ralph Jalis, comme beaucoup d'entre vous. J'ai pu parler avec certains ici qui ont dit « Ah bah oui, moi je suis de cette génération. » Et il y a 40 ans, Ralph nous disait « Sois amoureux de Jésus !» Et je dirais la même chose à des jeunes aujourd'hui. « Sois amoureux de sa parole !» Et je dirais la même chose à des jeunes aujourd'hui. « Lis la Bible une fois chaque année !» Je peux dire la même chose aussi. « Souligne-la avec des couleurs !» Aujourd'hui, les couleurs sont dans mon smartphone. Et je me dis, si Ralph voyait qu'on peut avoir 10 ou 12, 15 Bibles dans son smartphone et le souligner en couleurs, il trouverait ça vachement génial. Mon propos n'est pas de culpabiliser sur notre engagement à faire. Moi-même, mon verset préféré, c'est « Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Mais ma question, c'est « Qu'en est-il du silence dans notre vie, de la solitude, de l'écoute de Dieu, de la connaissance de soi dans notre hyperactivité ?» Vous vous souvenez de mon schéma? J'ai dit qu'on va examiner ces trois cercles par lesquels Dieu travaille dans notre vie pour nous rendre semblables à l'image de Jésus-Christ. Les deux premiers cercles étant conduits, marqués par la direction du Saint-Esprit, et le troisième, qu'on verra demain matin, plutôt axé sur les relations spirituelles. Donc, attardons-nous maintenant sur la question du silence, de l'écoute de Dieu, de la contemplation, de la solitude. Il y a trois voies par lesquelles Dieu atteint nos cœurs. L'amour, la souffrance et le silence. Hier, j'ai rappelé, tu es le fils et la fille bien-aimée de Dieu. C'est ton identité. C'est la base. Les souffrances, nous passons tous par des souffrances, au milieu desquelles il nous faut développer des disciplines pour découvrir la puissance de Dieu dans notre vie et le silence. J'ai présenté ma vision à un séminaire il n'y a pas longtemps et un leader très compétent par ailleurs a eu une réaction inattendue pour moi. Il m'a dit « Mais il n'est pas question du silence dans la Bible ». Est-ce qu'il y a un verset qui parle du silence dans la Bible? Je vous avoue que j'étais un peu déstabilisé. Nous sommes tous convaincus de la nécessité de la méditation de la parole de Dieu, comme l'écrit Dominique Angers dans son livre « La méditation à l'heure du numérique ». Je choisis d'entendre la voix de Dieu. Cela se produit chaque fois que je le souhaite, dans le silence matinal de mon bureau, ou dans une autre pièce à la maison. J'entends la voix de Dieu, c'est phénoménal et à peine inimaginable. Le Créateur de l'univers sait où j'habite, et il rend sa voix audible chez moi, dans mon petit village, de Haute-Savoie. Maintenant, il est à Montréal, mais il entend Dieu pareil. Hein. Chaque fois, je sais que c'est lui qui me parle, comme je ne confonds jamais la voix de ma femme avec celle d'une autre personne, même sa sœur jumelle. Je distingue aisément la voix de Dieu. Elle est différente de toutes les autres, unique en son genre. Non, je ne suis pas fou. Je n'entends pas plusieurs voix tout au long de ma journée, mais celle de Dieu, oui, je l'entends aussi souvent que je le souhaite quand je médite l'Écriture et quand je commence à parler, quand Dieu commence à parler. Formidable, hein ? Nous avons le privilège de pouvoir écouter Dieu, qui s'adresse à chacun d'entre nous. Personnellement, après plusieurs années de sécheresse et d'insatisfaction, j'ai découvert la nécessité non seulement de méditer la parole de Dieu, mais celle de faire silence et d'écouter Dieu. Et la Bible nous enseigne beaucoup de choses concernant cette discipline spirituelle du silence. Au début de son livre, le prophète Habacuc est confus et il demande des réponses à Dieu. Dieu, pourquoi est-ce que le méchant prospère ? Et de son temple, Dieu lui répond et donne son point de vue. Il rassure Habacuc. Je ne suis pas aveugle. Je vois la violence et le mal sur la terre. Je ne suis pas oisif. Je ne suis pas absent. Et Dieu donne une prophétie pour le peuple de Dieu qui s'accomplira d'une manière radicalement différente de ce que Habacuc pensait. Et la parole de Dieu touche Habacuc de manière profonde. L'Éternel, lui, est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Pour l'entendre, pour l'écouter. Pour l'écouter, nous parler chacun. Dans ce passage, le terme « silence » évoque un silence respectueux, rempli de crainte, un silence sacré, un silence sans parler, pas un silence vide. Hein. Vous savez très bien que dans le New Age, on dit « il faut faire le vide ». Nous, on ne veut pas faire le vide. On veut être rempli de la présence du Saint-Esprit et écouter Dieu. Pour pouvoir obéir à cet ordre, les chrétiens doivent se donner les moyens de faire silence. Parce que vous savez que dans notre vie quotidienne, ça tourne, ça tourbillonne. On arrive, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent à la fin de la journée, on est frustré qu'on n'a pas pu faire tout ce qu'on avait prévu de faire. Ma femme est la spécialiste des listes. Et elle voit toujours qu'il y a plein de choses qu'elle n'a pas pu faire sur sa liste. Malgré les événements catastrophiques qui s'annonçaient à l'horizon, Habacuc a compris que Dieu avait les choses en main et que Dieu était son salut et sa force. Et que dire de ces nombreuses circonstances où l'Ancien Testament nous exhorte au silence, comme ici. Ensuite, Moïse, assisté des prêtres lévites, s'adressa encore à tout Israël en disant « Fais silence, ô Israël, écoute !» Écoutez, il faut faire silence. Aujourd'hui, vous êtes devenu le peuple de Dieu. Si nous sommes tous ensemble le peuple de Dieu, nous devons faire silence et l'écouter. Et je crains que notre culture contemporaine nous prive de ce silence et de cette écoute. Pourquoi est-ce que Jésus insiste souvent dans le Nouveau Testament ? En disant que celui qui a des oreilles entende. Est-il possible d'entendre et d'écouter sans faire silence, sans se taire ? Pourquoi Jésus insiste-t-il ? Dominique Angier répond : Jésus avait des choses très profondes à dire au sujet de l'écoute. Il enseignait en utilisant des paraboles afin que ceux qui ne voulaient pas vraiment entendre la vérité puissent l'éviter. Il savait que tout le monde n'a pas des oreilles dans le simple but d'entendre, mais que certains utilisent leurs oreilles pour trier ce qu'ils veulent entendre, laissant le reste de côté. Il employait très souvent cet aphorisme « si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Mais il encourageait aussi ses auditeurs à faire un effort sérieux pour entendre, leur assurant que ce qu'ils recevraient serait en proportion de leur désir et de leur application. J'aime bien cette proposition de Dominique. Nous allons entendre la voix de Dieu dans la mesure où nous allons nous efforcer et nous allons nous discipliner pour l'écouter. Qu'est-ce que la discipline spirituelle du silence ? D'abord, j'imagine que personne ne va s'étonner que ce soit difficile de faire silence dans notre vie active. Nous sommes des gens qui vivons dans une culture de la distraction. Et ce n'est pas nouveau. Déjà, Pascal disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas pouvoir demeurer en repos dans une chambre. » Et vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas écouter Dieu sans faire silence. Et quand nous voulons faire silence, c'est là que les choses se compliquent. C'est pas comme ça dans votre tête ? C'est pas comme ça dans votre cœur ? À partir du moment où moi je veux faire silence, les avions volent dans tous les sens. Alors il y a quelqu'un qui a dit, si tu veux faire silence, prépare-toi une piste d'atterrissage. Un bout de papier. Quand tu veux être seul avec Dieu, au moment où tu commences à dire, Seigneur, je suis devant toi. Ah oui, mais il faut que j'achète du fioul. Ou il faut que je... Alors, tu prends un papier, un crayon, tu commences à écrire toutes les choses, tu les poses sur la piste d'atterrissage pour essayer de faire arrêter de voler les avions. Et moi, je vous propose de faire une minute et demie de silence. Essayez de poser les avions et de nous mettre à l'écoute de Dieu. Vous savez comment disent les Quakers ? Les Quakers disent se recentrer sur le centre, c'est centre, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Faisons une minute et demie de silence. C'est pas facile de nous taire et de nous placer à l'écoute de Dieu. Ça fait peur à certains. On est parfois mal à l'aise. Et puis, il y a ces avions. Moi, j'aime bien ce que dit Henri Nouwen. Il dit « À peine ai-je décidé de rester dans ma solitude » que de confuses pensées, des images troublantes, des visions incontrôlées et d'étranges associations d'idées prennent mon esprit d'assaut et s'y ébattent comme des singes dans un bananier. Moi, j'ai beaucoup de singes dans mon bananier, je peux vous le dire. La colère et l'avidité commencent à montrer leur face hideuse. Je fais de longs discours haineux à mes ennemis et connais des rêves concupiscents où je suis... Hop, il manque quelque chose. Influent et très séduisant. Ah oui, je suis influent et très séduisant. Ou bien pauvre, laid, animé d'un besoin pressant de réconfort. Je tente encore ainsi d'échapper à l'abîme de mon insignifiance et de restaurer mon faux moi dans sa vaine splendeur. L'épreuve consiste à persévérer dans ma solitude et à rester dans ma cellule jusqu'à ce que tous mes visiteurs, avec leurs tentations, se lassent de tambouriner à ma porte et me laisse seul. Non seulement c'est difficile de faire silence pour nous-mêmes, pour nous mettre à l'écoute de Dieu, et c'est comme ça que Dieu va nous façonner, à son image, mais en plus nous sommes dans une culture bruyante. Même dans certaines églises, il peut y avoir, pendant tout le temps de prière, de la musique. Et j'ai même entendu de la musique continue, du début jusqu'à la fin du culte, y compris pendant le message, y compris pendant les temps de prière. Difficile d'écouter Dieu quand il y a un bruit continuel. Et si jamais vous allez en Afrique, non seulement il y a du bruit, mais c'est très fort. Mais ça, c'est une autre question. Un des problèmes majeurs de notre société bavarde, c'est que le silence est en fait devenu une réalité qui effraie. Chez la plupart des gens, il provoque irritation et nervosité. Nombreux sont ceux qui ressentent le silence non comme plein et riche, mais comme vide et vain. Pour eux, le silence est un abîme profond qui menace de les engloutir. Il suffit qu'on dise au cours d'un office « Gardons le silence quelques instants » pour que les fidèles deviennent angoissés et n'aient plus qu'une idée en tête. Quand cela va-t-il finir ? Le silence imposé suscite souvent l'hostilité et le ressentiment. Et la première fois où moi j'ai prêché en Afrique, dans une évangélisation en pleine rue, avec tout ce qu'il pouvait y avoir, de bruyants, de groupes générateurs, de tout ce que vous voulez, à un moment, j'ai dit « Faisons silence !» Et mon traducteur a continué à parler pendant tout le temps de silence. Je me suis demandé, c'est quoi le problème ? C'est, le mot silence est tellement difficile à traduire. Non, je pense qu'il n'a pas supporté qu'on soit dans un moment de silence. Qu'est-ce que le silence ? C'est une pratique régénératrice consistant à être disponible et à écouter Dieu dans le calme, sans interruption ni bruit. Quand nous faisons silence devant Dieu, nous choisissons d'être disponibles et d'être dans sa présence. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que nous sommes réellement conscients de la présence de Dieu ? Ce qui me frappe, c'est que souvent nous pouvons chanter « Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta maison, etc. » Donc Dieu est là. Mais moi je me demande, est-ce que nous on est là ? À quoi on pense ? On pense parce qu'on sait, il a failli avoir un accident en venant, ou il y a le rôti après, ou j'ai oublié mes affaires, ou ah, je vous le devais ramener un livre à un tel. On est là dans une rencontre chrétienne, on est là dans un culte. Mais nous ne sommes pas là. Dieu est là, mais pas nous. C'est frère Laurent, un moine du XVIIe siècle, qui avait développé une vie de prière avec un accent particulier, la pratique de la présence de Dieu. Il dit des choses très simples. La pratique la plus sainte, la plus commune et la plus nécessaire en la vie spirituelle est la présence de Dieu. C'est se plaire et s'accoutumer en sa divine compagnie, parlant humblement, s'entretenant amoureusement avec lui en tout temps, à tout moment, sans règle ni mesure, surtout dans le temps des tentations, des peines, des aridités, des dégoûts et même des infidélités et des péchés. Être présent à Dieu dans toutes nos circonstances. Il n'y a qu'à reconnaître Dieu intimement, présent en nous, à nous adresser à tout moment à lui pour lui demander son secours, pour connaître sa volonté dans les choses douteuses ou pour bien faire celles que nous voyons clairement qu'il a demandé de nous, les lui offrant avant que de les faire et lui rendant grâce de les avoir faites pour lui dans l'action, dans cette conversation continuelle. On est aussi occupé à louer, adorer et aimer constamment Dieu pour ses infinies bontés et perfections. Et pour acquérir la présence de Dieu, il dit, le premier moyen est une grande pureté de vie. Et ça sera la suite cet après-midi, la nécessité d'une repentance continue, indépendante de l'écoute de Dieu. Le second, une grande fidélité à la pratique de cette présence, au regard intérieur de Dieu en soi, qui se doit toujours faire doucement, humblement, amoureusement, sans laisser aller à aucun trouble ou inquiétude. Ça me touche, dans les propos de frère Laurent du XVIIe siècle, de retrouver les mêmes choses que Rav Chalis, qui nous disait « sois amoureux de Jésus ». Quand on est amoureux, on peut même être assis l'un à côté de l'autre dans le silence, hein, ça marche aussi. Je voudrais que nous examinions le modèle de Jésus. Aussitôt, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir était venu, il était seul. Jésus a pratiqué le silence et la solitude. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui a précédé cet événement? Ce qui a précédé cet événement, c'était très chargé pour Jésus. Hein. Il venait d'apprendre la mort de Jean-Baptiste. Un deuil. Il était frappé par le deuil. En plus, il venait de multiplier le pain pour 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et il y avait du monde partout. Il a dit aux disciples, allez-y, moi je m'arrange avec la foule. Peut-être vous faites comme ça, des fois le dimanche matin au culte, les gens sont en train de bavarder, vous êtes le dernier, il faut encore faire la police. Et Jésus avait besoin de silence et d'intimité et de l'écoute de son père. Il est arrivé sans doute chargé par tout ce qu'il avait vécu. Il a besoin de se ressourcer en son père. Il dit dans Jean, « Moi, je ne peux rien faire que ce que le père me dit de faire et de ce qu'il me donne. » Et comme quelqu'un l'a dit, il est arrivé lourd et chargé avant ce temps de solitude et de silence cette nuit. Et après, il est parti plein et léger et il a marché sur l'eau pour rejoindre ses disciples. Depuis son baptême jusqu'à la croix, Jésus a prié continuellement. À 10 reprises, l'Évangile nous le montre en prière. Mais on sait peu de choses, en fait, des temps de prière de Jésus. Ce que je note, c'est qu'il y a beaucoup de silence et de solitude. Après une journée de miracles, Luc 15, 16, « Et lui se retirait dans les déserts. » Dans les déserts, il n'y a aucun bruit, c'est le silence total, à part le vent. Il n'y a pas de parasites. Avant de choisir ses disciples, Luc 6, 12, vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit. La nuit, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. On est seul, on est dans la solitude. Avant d'interroger ses disciples et de leur communiquer une révélation, Luc 9, 18, un jour que Jésus priait à l'écart, ayant pris ses disciples avec lui, il leur posa cette question. Avant d'enseigner ses disciples, Luc 10, Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Et pour lui-même, à Gethsémané, Luc 22, puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, seul, dans le silence. Il s'agenouilla et il pria. L'importance de la solitude chez Jésus. Jésus nous invite à la solitude et au silence. Quand Jésus se retirait, je ne crois pas que Jésus faisait ce que nous faisons parfois. Oh là là, moi j'ai besoin d'être seul, hein. Faut qu'on me fiche la paix, j'en ai jusque là, j'en ai... Non, non, je ne crois pas que c'était ça chez Jésus. Pour lui, être dans la solitude et dans le silence, c'était être en communication directe, en relation avec son Père. Parce que la solitude est le creuset de notre transformation. Les pères du désert disaient que c'était le lieu de notre conversion, de notre changement d'attitude, de notre métanoïa, donc de notre transformation à l'image de Christ. Nous sommes, je l'ai dit, pris par les pièges de notre société, de notre culture, par les exigences du faire, les exigences des autres. Il nous est beaucoup plus facile de fonctionner sans Dieu que de fonctionner avec lui. Et c'est pour ça que nous sommes tellement confrontés à notre ego. Parce que nous ne sommes pas à l'écoute de Dieu, nous sommes à l'écoute de ce que nous sommes en train de nous raconter à nous-mêmes. Dans la solitude, je me débarrasse de mes échafaudages. Pas d'amis à qui parler, pas de coup de fil à donner, pas de réunion auxquelles assister, pas de musique pour divertir, de livres pour distraire, rien que moi, nu, vulnérable, faible. Impur, dépossédé, brisé, rien, juste Dieu et moi. La solitude est le lieu de purification, de transformation, le lieu du grand combat, de la grande rencontre. La solitude n'est pas seulement un moyen orienté vers une fin, elle est elle-même sa propre fin. Elle est le lieu où le Christ nous modèle à sa propre image et nous libère des préoccupations aliénantes du monde. La solitude est lieu du salut. Parce que ma question, c'est quand est-ce que nous entendons le Saint-Esprit nous dire qu'il aimerait que nous changions? Quand nous entendons le Saint-Esprit dire « Je ne suis pas d'accord avec toi. Je n'aime pas ton attitude. » Je reviendrai là-dessus cet après-midi. Mais si nous voulons laisser le Saint-Esprit nous convaincre de ce qui doit changer dans notre vie, nous ne devons pas simplement attendre qu'il y ait un clash avec les autres et que les autres nous ont dit « tu as un caractère épouvantable ». Ah oui, quand les autres nous le disent, là on est obligé de dire « bah, je te demande pardon ». Mais pourquoi attendre ça? Est-ce que ce n'est pas déjà dans le silence que nous entendions Dieu nous reprendre, nous corriger et nous montrer qui est Christ? Personnellement, je travaille depuis quelque temps à cette discipline de la solitude et du silence pour mieux écouter Dieu, pour mieux me laisser conduire et orienter par lui. Ma femme le fait aussi, et nous remarquons que même si nous sommes des apprentis, comme je le disais hier, nous voyons les fruits et le résultat dans notre vie. Introduire un peu de solitude dans notre vie est une discipline nécessaire, même si elle est difficile. Même si nous pouvons éprouver un désir de solitude, nous ressentons toujours un petit peu d'appréhension. Dès que nous sommes seuls, sans personne à qui parler, sans livre à lire, il y a un chaos qui s'installe en nous. Il ne suffit pas donc de s'enfermer dans notre chambre, comme Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Il y a aussi le besoin d'éliminer tout ce qui tourne dans tous nos avions et tous nos singes dans nos bananiers. Et ça me frappe que nous avons de plus en plus de mal à le faire. Et ça me frappe qu'il y ait eu un glissement sémantique. Quand moi j'étais un jeune chrétien, on parlait du silence personnel. Et aujourd'hui, on parle du culte personnel. Est-ce qu'on peut faire silence en écoutant des chants de louange? Je trouve que c'est très bien. Peut-être que ça vous connecte à Dieu, les chants de louange. Mais pas en même temps que le silence. Dans le silence, nous découvrons les souffrances et les combats auxquels nous devons faire face dans la solitude pour qu'ils deviennent route de l'espérance. Car notre espérance ne se fonde pas sur quelque chose qui se produirait une fois que toutes nos souffrances seront terminées, mais sur la présence réelle de l'Esprit de Dieu au milieu de nos souffrances et sur la guérison qu'il apporte. La discipline de la solitude nous permet d'entrer graduellement en contact avec cette source d'espérance qu'est la présence de Dieu dans notre vie, et même de goûter dès à présent les prémices de la joie et de la paix qui caractérisent les cieux nouveaux et la nouvelle terre. Nous avons besoin, dans le silence, la contemplation et la solitude, de nous laisser imprégner par le Christ et son espérance. Dernier point, que dire de l'écoute de Dieu communautaire? Je rejoins Dominique Angers qui dit « Oui à la méditation communautaire ». La méditation communautaire est également essentielle. C'est même elle qui nous ouvre la voie de la méditation individuelle, comme l'affirme Bernard Huc. La prédication, dimanche après dimanche, va livrer une attitude par rapport à l'Écriture qui influencera grandement le fondement de la spiritualité des auditeurs. Et la méditation communautaire ne se limite pas à l'écoute de la prédication. Quand nous prenons la scène, que faisons-nous? Faites ceci en mémoire de moi. Nous nous remémorons le sacrifice du Christ pour nous. Nous méditons sur lui tous ensemble. Je vous ai dit que j'ai été bousculé dans ma tradition évangélique, pour ne pas dire que ça m'a fait un peu sortir de mes rails, quand je suis entré pour la première fois en contact avec la communauté internationale de mentors de Leighton Ford. Lors du premier séminaire, nous avons fait quelque chose qui était tout à fait nouveau pour moi. Nous avons écouté Dieu en groupe. Et le moment était ainsi conçu. Alain, quelle est ta grande question ? Et tout le monde s'est tu. On a écouté Dieu, on a prié. Et après, on a écouté ce que chacun a reçu. Ça vous fait sourire. Hein? Alors moi, ma grande question, c'était, est-ce que Dieu m'appelle véritablement à un ministère de mentor pour la période de la vie dans laquelle je suis, cette saison de ma vie dans laquelle je suis? Après un temps de silence, quelqu'un m'a dit, Alain, tu as passé 20 ans d'épreuve à accompagner quelqu'un jusqu'à la mort. Maintenant, Dieu va te donner d'accompagner des gens à la vie. Vous ne pouvez pas savoir à quel point cette phrase me venait de la part du Seigneur. En une fraction de seconde, j'ai compris que si Dieu m'avait formé au travers de 20 ans de souffrance, pourquoi est-ce que le vigneron émonde la vigne ? Pour qu'elle porte du fruit. En un instant, j'avais compris Le puzzle de ma vie s'était remis en place. Je comprenais le sens de l'épreuve et de la souffrance. Et je comprenais dans quelle saison de ma vie j'entrais. Le Seigneur m'avait parlé à travers de ce temps de silence et d'écoute. Et on nous avait dit, parce que dans la communauté de Leighton Ford, on signe une charte avec les valeurs du mentorat. Et on nous avait dit, il faut amener un objet qui symbolise dans quel état d'esprit on signe cette charte. Et moi, j'ai tout de suite su. Je vais ramener une pomme, un fruit. Parce que si Dieu m'a émondé pendant 20 ans, au travers de l'épreuve et de la souffrance, je l'ai dit, c'est pour que je porte plus de fruits. Donc les fruits sont à lui. Et je mets la pomme sur l'autel. Les fruits ne sont pas à moi. Une simple petite phrase, entendue de la part de Dieu, dans un temps d'écoute. Savons-nous écouter Dieu ensemble? Quelle est notre pratique du silence et de l'écoute? Parce que le Saint-Esprit habite en nous. Quels sont les effets de sa présence dans nos vies? Voici ce que dit Oswald Chambers. La voix de l'Esprit est aussi douce que la brise, si légère qu'on peut l'apercevoir, que si l'on vit en communion parfaite avec Dieu. Les avertissements de l'Esprit nous parviennent avec la plus extraordinaire douceur. Et si nous ne sommes pas assez attentifs pour discerner la voix, nous ne l'entendrons pas. Et notre vie spirituelle se dégradera. Ces avertissements nous parviennent toujours comme un doux murmure, si doux que seul l'enfant de Dieu peut le percevoir. Notre thème, c'est pour une spiritualité et un leadership à l'image de Christ. Quelle est la place du silence dans votre vie personnelle et dans votre vie de leader? Vivez-vous dans la présence de Dieu? Ou est-ce que vous êtes très souvent aux abonnés absents? Nous devons écouter le Saint-Esprit. Nous devons développer cette discipline de l'écoute, du silence, de la méditation, de la contemplation, pour devenir des hommes et des femmes à l'image de Christ. Et j'aime bien cette citation de Dallas Willard que je vous laisse en conclusion. Vous trouverez rarement une personne qui a fait de grands progrès dans la vie spirituelle et qui, à un moment donné, n'a pas eu beaucoup de temps dans la solitude et dans le silence. Soyez bénis.